Il est 12h30, je peux vous le confirmer. Et avant de vous rejoindre, Julie, c'est l'un de vos invités, Martial Foucault répondra à nos questions. Quid de cette mission dont écoperait Édouard Philippe, celle-là même de réorganiser la majorité? Le maire du Havre sera-t-il en mesure de la remplir, cette mission? Élément de réponse dans un instant. Qui pour gouverner la ville de Marseille? Ouverture en début de matinée de la réunion du conseil municipal. Aucune majorité au terme du premier vote. Nous serons en ligne dans un instant avec Olivier Martoc. Et puis état d'urgence au large. SOS Méditerranée qui affrète le navire humanitaire Ocean Viking fait état de bagarres et de tentatives de suicide à bord. 180 candidats à l'exil. La philosophie du nouveau gouvernement, c'est l'opérationnalité. La phrase est du nouveau Premier ministre Vaughan en ce début de journal à bord de ce vocable dégainé par Jean Castex lors de sa première prestation télévisuelle en tant que locataire de Matignon, c'était hier soir sur TF1. Opérationnalité très incertaine à Marseille en ce jour d'élection du maire. Le conseil municipal s'est réuni en début de matinée et a voté une première fois deux candidats. Prétendent succéder à Jean-Claude Gaudin, la candidate de l'Union de la gauche, Michel Rubirola, et le candidat LR, Guy Tessier. Bonjour Olivier Martoc.
Bonjour Mathieu.
Olivier, quel rapport de force au terme de ce premier tour?
Écoutez, le premier tour de scrutin déjà a pris toute la matinée, alors ça vous montre la complexité de la donne et la tension aussi qui règne. Ici, il y a toujours des gens, depuis ce matin, qui attendent ce résultat, et donc des gens de gauche qui ne veulent pas évidemment qu'on leur vole le scrutin. Alors au premier tour de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il y avait trois candidats, pas de surprise, pas de coup fourré. Michel Rubirola a eu les voix des 42 conseillers municipaux du printemps marseillais, Guy Tessier 41 voix, il lui a manqué celle d'un des trois élus de la liste à l'air dissidente qui a voté blanc. Samia Ghali, qui s'est présenté, a fait le plein de ses élus, de sa mairie de secteur, des quartiers nord, 8 voix. Et vous allez me dire qu'il manque quelqu'un. Eh bien oui, c'est le Rassemblement National. Ça a été le coup d'éclat en ouverture de ce conseil municipal. Stéphane Ravier et ses 9 élus ont quitté l'hémicycle.
Après ces tractations, ces négociations, ce marchandage qui s'est opéré depuis
plusieurs
jours...
C'est votre avis, monsieur...
Je tenais à vous faire savoir que nous ne présenterons pas de candidats, que nous ne participerons pas au vote.
Très bien, c'est votre...
Et que nous quittons cet hémicycle. Mesdames et messieurs, nous vous laissons entre nous.
Voilà, alors c'était un coup d'éclat. Le problème qui se pose maintenant, c'est que Stéphane Ravier et les élus du Rassemblement National sont revenus dans l'hémicycle et donc on ne sait absolument pas s'ils vont reprendre part au vote, au prochain vote, ou non.
Alors je tente tout de même, Olivier Martoc, quelle marge de manœuvre pour les uns et les autres?
En fait, on ne sait absolument pas. Il y a des tractations depuis tout à l'heure à gauche entre Michel Rubirola et Samia Ghali. Il est évident que si Samia Ghali apporte ses voix à Michel Rubirola, c'est plié. Elle aura la majorité absolue. Il ne peut absolument rien se passer. Seulement, Samia Ghali veut devenir première adjointe et Michel Rubirola ne l'entend pas comme ça. Du côté des Républicains, c'est très compliqué. Ils ont 41 voix. Évidemment, si le Rassemblement National vote pour Guy Tessier, eh bien Guy Tessier sera maire. Mais ça paraît très très improbable quand même. Alors j'attends, comme tout le monde, ici nous attendons. Et ça risque de prendre du temps parce que rien ne se profile à l'horizon pour le second tour.
Merci à vous Olivier Martoc et ainsi qu'à Gilles Gallinaro pour les moyens techniques en direct de Marseille. Lui sera élu demain maire du Havre et sans devoir affronter turbulences, revirements et trahisons de dernière minute. Édouard Philippe retrouve en effet un mandat local qui lui aura offert une assise, une légitimité précieuse en ces temps de désaffection politique. Il n'est pas étonnant du coup d'apprendre que l'Élysée envisage de lui confier un travail de consolidation et de restructuration de la majorité. Bonjour Martial Foucault.
Bonjour.
Directeur du CEVIPOF, invité dans un instant du magazine du week-end, comme je le disais en titre, Martial Foucault. Quels participants et quel périmètre pour ce territoire politique qu'il reste à consolider?
Écoutez, si cette mission se confirmait et si elle était acceptée par le principal intéressé, Édouard Philippe, je dois dire que ça ressemble beaucoup à ce que Édouard Philippe avait déjà, dans un temps ancien, l'Ancien Monde, en 2002, dû accomplir aux côtés de Alain Juppé, lorsqu'il était directeur général des services de l'UMP, pour constituer ce grand parti allant du centre à la droite, à l'époque, le RPR. Bon, là, ce qui est très surprenant, au fond, c'est à la fois à qui profitera cette mission. Est-ce que l'idée, c'est c'est de préparer et de se substituer en quelque sorte au patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, pour essayer de préparer, mettre les troupes et l'ensemble des grands électeurs de droite du centre, le groupe Agir, en fait ce grand centre droit, en ordre de marche pour l'élection présidentielle de 2022. Ou bien on peut voir aussi d'une autre manière cette mission comme étant la possibilité, on sait que la vie politique nationale est instable, la possibilité pour que, au fond, Édouard Philippe soit un recours si les conditions ne sont pas réunies pour qu'Emmanuel Macron puisse être lui-même candidat. Donc, au fond, je dirais que on a bien vu qu'Édouard Philippe, pendant ces trois années, n'a pas été, du point de vue des parlementaires, un grand chef de la majorité. Or là, on lui demande cette mission de rassemblement, d'agrégation, qui n'est pas forcément dans son identité première au sens politique.
Alors, pas dans son identité première au sens politique, mais aurait-il les capacités, je vous demande une réponse brève, de nouer des alliances, de jouer des complémentarités?
Ces alliances vont quand même essentiellement reposer sur à la fois la feuille de route du nouveau Premier ministre. Est-ce que le discours de politique générale va permettre de faciliter cette mission? Et ça, on le saura véritablement que dans les prochaines semaines, parce qu'avant cela, c'est compliqué de dire on va se rassembler s'il n'y a pas un projet commun.
Bien, merci à vous, Martial Foucault. On vous retrouve avec Julie Gacon dans un instant après ce journal. Sur le front social nourri en ces temps de déconfinement, une manifestation à Lannion dans les Côtes d'Armor pour la défense du site de Nokia où près de 400 emplois sont menacés. Déconfinement à géométrie très variable en Europe quand les pubs rouvrent en Angleterre. Les autorités catalanes reconfinent 200 000 personnes. Mesures de confinement découragées en revanche sous d'autres latitudes. L'Organisation mondiale de la santé lance aux États en première ligne. Réveillez-vous! Les chiffres ne mentent pas. L'OMS cible Washington, flambée de cas de coronavirus dans le sud et l'ouest des États-Unis, mais pas seulement. Plus de 10 000 morts en Russie, relevé officiel, largement sous-estimé selon les ONG. La pandémie, on le sait, n'est pas derrière nous et les scientifiques ne s'offrent aucun répit. Des dizaines d'essais cliniques sont en cours dans le monde pour trouver un vaccin efficace contre le Covid-19, mais les laboratoires se tourneront tous à un moment vers un pays pour le produire, l'Inde. Le pays fabrique en effet les deux tiers des vaccins utilisés dans le monde et une compagnie peu connue, grand leader de ce marché, a déjà pris de l'avance dans cette course en produisant les premières doses d'un vaccin en cours de développement. Les précisions de notre correspondant en Inde, Sébastien Farcy.
C'est une entreprise discrète, mais son influence est énorme. Serum Institute of India produit 1,5 milliard de doses de vaccins par an, soit la moitié des vaccins vendus dans le monde. Début juin, cette société basée à Pune, près de Bombay, a commencé à fabriquer les premières doses d'un potentiel vaccin contre le Covid-19, développé par l'université d'Oxford et le laboratoire britannique AstraZeneca. Adar Poonawalla, le PDG de la société, explique pourquoi il lance la production avant la fin des essais cliniques.
Les scientifiques d'Oxford estiment qu'il y a de 70 à 80% de chances que ce vaccin fonctionne. Ils sont très confiants car ils ont utilisé la même technologie que pour le vaccin contre l'Ebola. Nous devons prendre ce risque en ces temps de crise, sinon nous prenons un an de retard et cela serait dramatique. Nous allons standardiser le processus et à partir du mois d'août, nous pourrons produire 50 millions de doses par mois.
Si les essais cliniques sont concluants, Serum Institute of India devrait être l'une des premières à produire le vaccin le plus recherché du monde. Il sera alors administré dès la fin de l'année. Cette entreprise fournira en priorité l'Inde et les pays d'Afrique, mais le laboratoire AstraZeneca s'est aussi engagé à fournir 400 millions de doses de ce vaccin aux pays européens.
Refermons cette édition avec l'alarme déclenchée et pour la première fois par l'équipage de l'Ocean Viking qui a repris il y a peu ses opérations de sauvetage au large de la Libye. État d'urgence à bord, Christian Chenoux.
À bord de l'Ocean Viking, l'ambiance est devenue franchement irrespirable. Le navire de SOS Méditerranée erre depuis une semaine au large de la Sicile avec à son bord 180 migrants qui sont dans une détresse psychologique aiguë, alerte l'ONG. Ces derniers jours, deux hommes se sont jetés par-dessus bord dans un geste désespéré. 6 tentatives de suicide ont été recensées. Les nerfs des passagers sont à vif, des bagarres éclatent entre eux. Certains ont développé une forme de paranoïa accusant l'ONG de sciemment retarder leur débarquement à terre parce qu'elles auraient conclu, selon eux, un accord financier avec les autorités italiennes. Les membres de l'équipage ont même subi des menaces. L'équipe d'humanitaire, qui porte une combinaison orange, a dû doubler ses effectifs sur le pont pour des raisons de sécurité. C'est pourquoi SOS Méditerranée a décrété l'état d'urgence sur le bateau, une première pour l'ONG qui exhorte les autorités de Malte et italiennes à accueillir le navire pour débarquer les migrants en détresse psychologique pour des raisons médicales. Pour le moment, les deux pays refusent. Pour toute réponse, l'Italie a simplement donné le numéro de téléphone d'un psychologue pour prendre en charge la détresse des migrants. L'Ocean Viking s'est positionné au large de la Sicile et n'attend que le feu vert pour faire route vers un port d'accueil.
Quelques mots de la météo de l'après-midi, un ciel couvert et quelques pluies sur les régions bordant la Manche, ailleurs du soleil.